France Culture.
C'est une marque automobile qui a fini par se confondre avec le nom de son patron. Tesla est Elon Musk, Elon Musk est Tesla. Un rapprochement particulièrement problématique alors que l'homme derrière ou devant la marque, c'est selon, emprunte des chemins politiques particulièrement sombres, membre depuis l'élection de Donald Trump de son gouvernement en prenant la tête du Department of Government Efficiency, le fameux DOJ, le 20 janvier dernier. Elon Musk enchaîne les prises de décisions particulièrement radicales vis-à-vis de l'administration américaine. Entre licenciements et coupes budgétaires, les soupçons de prise illégale d'intérêts s'accumulent, et notamment en ce qui concerne Tesla, qui fait l'objet de multiples enquêtes aux États-Unis. Et tout cela a un coût. La fortune d'Elon Musk était estimée à 486 milliards de dollars le 17 décembre 2024, faisant ainsi de lui l'homme le plus riche de tous les temps, selon un indice de richesse élaboré par Bloomberg. Son patrimoine a dorénavant diminué de 148 milliards de dollars. La journée du 10 mars a été marquée par la chute de l'action de Tesla, une chute de l'ordre de 15%. Le lendemain, le président des États-Unis avait annoncé qu'il allait procéder à l'achat d'une Tesla toute neuve en signe de confiance et de soutien. Au-delà de l'homme, c'est tout un modèle industriel, celui de Tesla, qui est aujourd'hui en train de trembler sur ses fondations. La chute des ventes des véhicules en Europe et en Chine, l'effondrement en bourse, tout cela cache une forêt bien plus structurelle de difficultés auxquelles le constructeur de véhicules électriques est confronté. Des difficultés qui s'incarnent notamment sur les signes de production, les sites pardon, de production de la marque, dont le seul implanté en Europe, celui de Giga Berlin, qui emploie 12 000 personnes. C'est donc à 40 km environ de la capitale allemande que nous nous rendons aujourd'hui pour comprendre si le modèle Tesla est aujourd'hui parvenu à un point de rupture. Dans cette émission préparée et programmée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Alex Zang. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Marie Krpata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, rattachée au Centre d'études franco-allemandes, le CERFA. Vous avez rédigé en mars 2021 une étude pour le CERFA, je crois, ou pour l'IFRI.
Pour les deux.
Une étude intitulée « L'automobile, talon d'Achille de l'industrie allemande, point d'interrogation ». Bernard Julien, vous êtes également avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes, quant à vous, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et vous êtes le co-auteur avec Thomas Sopardi, Samuel Klebaner et Marc Alochet de « Légère et abordable, les clés d'une voiture électrique à succès » publié chez la Fabrique de l'Industrie en janvier de cette année. Et vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Rennes et j'en profite pour remercier Clément Bougneux qui assure justement ce duplex. Alors Bernard Julien, Tesla est fondé en 2003 en Californie, Elon Musk qui entre au capital en 2004, en 2015 et 2014, la Tesla Model S devient la voiture électrique la plus vendue au monde. En mars 2020, Tesla atteint le premier million de véhicules produits. Or, pour produire ces véhicules, il faut bien sûr des usines. Tesla compte 8 sites. En 2012, les premiers Model S sortent du site de Fremont en Californie. Arrivent ensuite les usines de Giga New York en 2016 et Giga Nevada en 2017, qui elles se spécialisent respectivement dans les batteries et les moteurs et les cellules photovoltaïques. Et puis, les sites de fabrication s'exporte en dehors des États-Unis à Shanghai en 2019. Et puis c'est le cas qui va nous intéresser aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, qui s'exporte donc à Grünheide, au sud-est de Berlin. Alors une première question, Bernard Julien. Tesla était au troisième trimestre 2024 le premier constructeur de véhicules électriques avec 463 000 véhicules écoulés, avoir uniquement deux sites, trois si on compte celui qui se trouve aux Pays-Bas mais qui ne produit pas de véhicules, mais donc avoir deux sites de production en dehors des frontières américaines, c'est peu, c'est beaucoup pour un constructeur de cette ampleur?
Quand on est en train de développer son implantation, avoir un site, c'est relativement cohérent, surtout quand c'est un gigasite, comme ils les appellent. Et puis ça correspond quand même à une stratégie produit qui est très particulière, hein, qui est celle de Tesla, et qui consiste à avoir en catalogue deux modèles et à faire l'essentiel de ses ventes avec deux modèles. Donc en fait, hein, c'est une stratégie qui n'est pas complètement standard, mais qui est très proche de celle qu'on a pu voir se développer il y a 100 ans, au fond, avec Ford. Hein. Ford qui était parti sur un seul modèle, qui avait une usine géante qu'on appelait l'usine de White River dans le Michigan, et puis qui ensuite a développé un site en Angleterre typiquement pour faire le modèle unique. Hein. Donc là, l'idée, c'était d'avoir sur Shanghai et sur Berlin des sites qui seraient très spécialisés et qui profiteraient à plein des économies d'échelle, parce que ben on fabrique les voitures pour l'Europe à un seul endroit, hein, et plus précisément, on fabrique pratiquement que des modèles Y sur ce site-là, hein, et on a effectivement une facilité à baisser les coûts que n'ont pas les constructeurs qui ont soit plusieurs sites, soit des sites qui sont polyvalents et qui font plusieurs modèles. Hein. Donc là, on a effectivement un objectif qui est très très fordien, hein, très 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 tellurofordien, je dirais, avec la quête d'une échelle très très importante. Effectivement, c'est une manière de rendre peut-être compatible le fait d'être dans un pays à haut salaire tout en voulant être productivement très efficient. Hein, au fond, quand on regarde la stratégie de Volkswagen, on s'aperçoit qu'ils ont aussi, hein, à Wolfsburg, par exemple, un site qui va faire 600 000 voitures et qui permet d'éponger les surcoûts salariaux grâce à ces économies d'échelle. C'est un petit peu ça qui explique la manière dont Tesla a conçu son empreinte industrielle mondiale.
Donc on le comprend, Bernard Julien, et c'est déjà un pilier que vous venez d'évoquer de la stratégie de Tesla, cette idée de se spécialiser sur un ou deux, enfin sur un nombre très réduit de modèles, ce qui permet de rester rentable, on va dire, dans les coûts de fabrication par rapport à des salaires qui de fait sont élevés. Juste une petite parenthèse technique, Bernard Julien, vous avez parlé du modèle Y, qui effectivement est celui qui est produit dans les usines de Berlin. Très concrètement, quel est ce modèle, à quoi ça ressemble, très brièvement, juste pour qu'on ait une idée de ce dont on va parler pendant toute l'émission.
Un modèle Y, c'est un modèle assez proche d'un SUV, hein, qui correspond à un machin qui fait quelque chose comme 2 tonnes et qui va se vendre entre, alors selon qu'il brade ou pas, hein, entre 35 et 55 000 euros. Hein, donc c'est un modèle moyen haut de gamme, hein, qui va se trouver en face, mais un peu au-dessus peut-être de la Mégane pour ce que connaissent les Français, ou de l'ID3 ou des ID3 ou ID4 pour ce qu'on a chez Volkswagen.
Donc on le voit, un véhicule qui correspond, on va dire en tout cas, à un certain imaginaire européen. On va voir dans quelle mesure ça s'inscrit aussi dans cette stratégie européenne. Marie Krpata, à quoi correspond très concrètement la stratégie d'Elon Musk lorsqu'il décide en 2019 de s'implanter au cœur de l'Union européenne? Est-ce que c'est effectivement se rapprocher de ce marché potentiel?
Oui, alors tout à fait, c'est tout un symbole de s'implanter dans la patrie de l'automobile, le Autoland, donc effectivement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne s'implante pas dans les régions dans lesquelles il y a ces fameux bastions de l'automobile typiques en Allemagne, que sont la Bavière avec BMW, mais également le Bade-Wurtemberg et la Basse-Saxe avec Mercedes et avec Volkswagen. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est à proximité de Berlin avec cette usine, que c'est une usine qui est bien connectée avec Berlin, avec donc une connexion avec l'autoroute, avec l'équivalent du RER. Il a accès aux cerveaux qui viennent de Berlin, donc à des personnes qui sont hautement formées, qualifiées, diplômées. Et en même temps, on n'est pas loin de la Pologne, donc à 20 minutes de la Pologne. Et cela peut aussi être un moyen d'avoir accès à une main-d'œuvre moins onéreuse. D'ailleurs, c'est des employés qui sont très internationaux. Hein. C'est à la fois des Turcs, des Syriens, des Indiens, des Polonais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, BMW avait déjà dans le viseur ce terrain-là et finalement a décidé de ne pas s'y rendre, de ne pas y aller. Et donc finalement, c'était tout bénéfice pour Tesla, qui s'est dit qu'il y avait déjà quelque chose, on ne partait pas de zéro. Voilà. Donc voilà un certain nombre de raisons pour lesquelles Tesla s'est implanté là-bas.
Vous avez évoqué le fait que l'Allemagne est la patrie de la construction automobile. Vous avez évoqué différents acteurs, Marie Krpata. Très concrètement, lorsque en 2019 on comprend ou on apprend qu'effectivement Tesla va potentiellement construire une usine, et on l'a dit avec Bernard Julien, une giga-usine, comment cette annonce-là est reçue? Est-ce que c'est vu comme de la concurrence supplémentaire? Est-ce qu'il y a eu une mobilisation de la part des constructeurs automobiles historiques en Allemagne?
Il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement on s'est réjoui de cette décision du point de vue politique, hein, parce que ça permet de renforcer la base industrielle allemande, le Standort Deutschland. Donc il y a eu beaucoup de soutien politique, notamment le ministre-président Dietmar Woidke, qui a mis en place des task forces, où il a mobilisé un certain nombre de politiques à différents échelons, au niveau communal, au niveau du Land, mais aussi en mobilisant les exploitants d'autoroutes et du chemin de fer pour aussi assurer une bonne connexion de ce site. Et effectivement, en plus, c'est dans l'est de l'Allemagne qui, en comparaison avec l'ouest de l'Allemagne, est voilà, socialement, économiquement défavorisé. Donc il y a aussi tout cet aspect-là de se dire, voilà, on va redynamiser finalement un territoire, il va y avoir un effet multiplicateur. Et de fait, il y a une gare qui s'y est installée avec un centre commercial. Et donc Tesla, quand Elon Musk a annoncé en 2019 qu'il allait s'installer à Grünheide et qu'il a ensuite lancé le site lors de la journée inaugurale, il a invité Olaf Scholz, le chancelier, il a invité Robert Habeck, le vice-chancelier ministre de l'énergie, de l'économie, et aussi les politiques au niveau local. Maintenant, du côté des industriels, je pense qu'on a aussi un peu été inquiets. En tout cas, Herbert Diess, le chef de Volkswagen, en 2020, avait publié un post LinkedIn où il a dit j'engage la compétition avec Tesla.
Relever le défi.
Je relève le défi, effectivement, puisque on prend conscience en Allemagne à ce moment-là qu'on a du retard à la fois sur le segment du véhicule électrique, mais aussi sur l'offre numérique que propose Tesla. Et je pense que ce qui a aussi été important, ou un élément déclencheur, c'est quand Tesla est entré en bourse avec donc une valeur de l'action de Tesla qui était bien supérieure à celle de plusieurs constructeurs automobiles, y compris Volkswagen, Toyota et Honda. Donc voilà, en tout cas, un élément déclencheur pour Herbert Diess aussi, pour dire, voilà, on va investir maintenant massivement dans le numérique. Donc je crois que c'était 27 milliards d'euros, 35 millions d'euros dans le véhicule électrique, 11 milliards d'euros dans le véhicule hybride de 2020 à 2024. Donc vraiment une prise de conscience à ce moment-là d'un retard qui a été pris.
Bernard, Julien, est-ce que de ce point de vue-là, on le comprend pour certains constructeurs, l'arrivée de Tesla en territoire allemand, voire en territoire berlinois, on va le dire ainsi, est vue comme un défi à relever. Mais très concrètement, on pourrait se dire que pour des acteurs historiques, traditionnels, très ancrés aussi politiquement, très ancrés aussi dans le paysage industriel de façon très pérenne, on pourrait se dire que Tesla, nouvel arrivant, n'a pas forcément une menace. Est-ce que ça a été perçu comme tel malgré tout?
Ouais, je pense que effectivement, la réaction est assez ambivalente. Hein. Il y a d'une part le fait que accueillant Tesla, on reste au cœur de la machine automobile européenne, même si elle devient électrique. Hein. Et donc, je pense qu'il y a eu un marketing politique, je dirais, de la part de Elon Musk. On ne sera pas surpris pour vendre cet aspect-là. Et puis en même temps, il y a la crainte de se voir tailler des croupières sur ce marché-là. Hein. Et donc, il y a une certaine ambivalence. Hein. Après, sur la stratégie, je dirais, sociale, quoi. Il y a quand même, on le disait, il y a la proximité de la Pologne, il y a le fait qu'on est à l'Est et qu'on touche des subventions parce qu'on est dans des régions qui sont censées être en développement, et puis il y a quand même aussi la volonté d'être le plus loin possible de IG Metall et de ses foyers, hein. Donc c'est une stratégie finalement qui est assez proche de ce qu'on a vu se développer aux États-Unis dans les États du Sud, hein. On a cette idée que on va accueillir l'automobile nouvelle, loin de l'ancienne automobile, pour offrir aux constructeurs qui souhaitent arriver des conditions plus favorables, avec un syndicalisme moindre et avec des conditions finalement assez différentes. Hein. Et c'est vrai que le fait que, comme on l'indiquait, il soit allé séduire Olaf Scholz, qui est quand même social-démocrate et plutôt lié à IG Metall, c'est un symbole de cette espèce de stratégie politique, hein, qui s'est ensuite, hein, on va certainement en parler, qui s'est ensuite affirmée et qui consistait à faire en Allemagne alliance avec d'autres, les sociaux-démocrates, assez rapidement.
Et de fait, vous citez Olaf Scholz qui aurait été séduit. De fait, il semble relativement séduit puisqu'il était présent lors de l'inauguration de la Giga Berlin le 22
mars 2022. Je me réjouis que nous soyons tous ensemble, zwar Je suis heureux de nous voir nous rassembler ici, aujourd'hui, pour le commencement de la production. Cet événement est le signe que beaucoup de choses bougent en Allemagne. D'abord, il nous montre que l'Allemagne de l'Est est à la pointe de l'industrie. En effet, la première usine, construite en Allemagne, qui ne produit que des véhicules électriques, a été construite dans l'Est du pays. Cette usine, qui est en train de voir le jour, s'implante bien à l'est de l'Allemagne, dans le Brandebourg, avec derrière elle une entreprise internationale qui produit exclusivement des véhicules électriques. Voilà la preuve que l'unité allemande fonctionne très bien.
Marie Krapta, il faut là insister hein, sur cette localisation spécifique. On a commencé à l'évoquer. On parle de cette ville quand même de Grünheide, qui est à 40 km donc à l'est de Berlin, dans le Land du Brandebourg, qui compte cette ville. Elle comptait à peine 9000 habitants. C'est une région qui appartient donc à l'ex-RDA, l'Allemagne de l'Est. En 2019, le taux de chômage dans les 5 Länder de l'Est était de 6,9% contre les 3,1% de la moyenne nationale. Clairement, pour les représentants politiques à la fois à l'échelon local mais aussi fédéral, c'est une opportunité économique dont ils ne pouvaient pas se passer.
Oui, alors tout à fait. On a des recettes fiscales de 6 millions d'euros, on a un emploi de 12 000 employés et 500 intérimaires qui ont été employés dans cette gigafactory. Donc effectivement, c'est absolument, c'est bénéfique. On peut aussi mentionner qu'il y a eu plusieurs projets de batteries aussi dans d'autres pays, aussi à l'est de l'Europe, notamment à Wrocław, en Pologne, mais également en Hongrie, avec LGChem, Samsung, SK Innovations, plus tard après CATL aussi qui s'est établi à Erfurt en Allemagne. Maintenant, on parle aussi de Chery en Espagne. Mais en tout cas, c'est vraiment un effet multiplicateur pour d'autres secteurs. Et donc, ça a été effectivement salué. Alors maintenant, il y a aussi des inquiétudes qui sont liées aux externalités négatives, à l'environnement, à la pollution potentielle, puisqu'on se trouve aussi dans une zone protégée avec des bois de pin. Et donc, c'est une gigafactory qui s'étend sur 300 hectares. Et avant même que l'autorisation a été fermement donnée à Tesla, il y a 100 hectares de pins qui ont été rasés. Donc en fait, l'Allemagne, enfin les responsables politiques ont vraiment appliqué une vitesse Tesla et l'ex-Tesla. Donc ils sont allés très rapidement dans les autorisations. Donc Elon Musk, quand il a annoncé donc la construction de l'usine, il voulait qu'en l'espace de 2 ans, le projet soit terminé et en définitive, il y a eu un retard uniquement de 6 mois par rapport à ces échéances, ce qui, quand on connaît un peu la bureaucratie allemande, n'est pas si mal. Et d'ailleurs, il s'est plaint du fait qu'il fallait regarder 70 classeurs et qu'il y avait 25 000 formulaires à remplir, etc. Donc quelque part, oui, c'est deux mondes qui se confrontent. Un monde allemand, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec une économie sociale de marché, avec effectivement des syndicats qui sont aussi très importants, et notamment IG Metall. Et puis d'un autre côté, le capitalisme américain à la Elon Musk. Oui.
De façon générale, il y a quand même eu une forme d'engouement politique, mais qui a eu des retombées très concrètes en termes d'accompagnement, on va dire, administratif, entre la date de l'annonce de ce projet de Gigafactory et puis le jour de l'inauguration. Je crois qu'il y a un peu plus de 800 jours qui se sont écoulés, ce qui est relativement court. Cela dit, Bernard Julien, moi j'avais quand même une question, et on en revient peut-être là aux arguments que vous avez déjà évoqués, mais il y a quand même une forme d'incompréhension autour du fait que si on suppose que Elon Musk soit un individu rationnel, on va dire, un homo economicus, il y a quand même une large question. Vous avez mentionné les salaires relativement élevés en Allemagne. On a mentionné aussi cette tradition allemande et à travers IG Metall d'une forme de discussion, en tout cas avec les syndicats. Elon Musk, on vient de l'évoquer, a râlé quand même vis-à-vis du fait qu'il a dû présenter les 23 700 pages de documents administratifs nécessaires pour permettre la construction de cette usine. Tout cela ne semble effectivement pas très Musk compatible, on va dire. Est-ce que vraiment ce qu'on a évoqué jusqu'ici, la proximité avec à la fois Berlin mais aussi la Pologne, justifie le fait de se contraindre à cet ensemble de règles, de normes typiquement allemandes ?
Je crois effectivement que les stratégies d'internationalisation dans l'automobile sont politiques. Elles ne peuvent qu'être politiques. Il faut absolument être bienvenu pour avoir une chance de réussir, pour avoir une chance de voir évoluer les fiscalités, les réglementations, etc. dans un sens qui soit pas trop défavorable. L'électrique, depuis que on est en train d'essayer de le développer, fait l'objet d'examens et de réexamens réglementaires tous les deux jours. Donc, si on veut peser dans ces débats-là, alors je pense qu'il est assez opportun d'être au cœur de la turbine automobile européenne, et je pense que Musk a très bien compris que être en Allemagne, c'était pas tout à fait équivalent que d'être en Espagne, en Italie ou a fortiori en Hongrie. C'est-à-dire que ses chances de peser sont autrement plus importantes en étant en Allemagne qu'en étant à la périphérie de cette Union européenne. Donc c'est certainement cela, et cela d'abord, qu'il a joué, et puis accessoirement il vend quand même des véhicules qui, tout en étant moins chers que les premiers qu'il avait conçus, sont beaucoup plus chers que ceux qu'on va aller fabriquer volontiers dans les pays d'Europe centrale orientale ou bien encore en Turquie ou au Maroc. Donc il y a une assez grande cohérence. J'insiste un petit peu quand même sur cette histoire de réglementation et de déréglementation, parce que c'est finalement assez proche de ce qu'il va défendre aux États-Unis, qu'on le voit tenter d'obtenir et obtenir de fait. C'est vrai que en Europe, on a une concurrence entre États pour attirer les investissements qui conduit à s'asseoir assez volontiers sur une série de considérations qu'on pouvait avoir par ailleurs. Et accessoirement, le fait que on se fasse concurrence pour attirer ces investissements-là, ça conduit à ne jamais examiner la question de savoir si, accueillant ces investissements étrangers, on n'est pas en train de fabriquer ces fameuses surcapacités que l'on craint par ailleurs. Le fait que Tesla soit venu assembler 500 000, 600 000 voitures, le fait que demain BYD en fasse autant, sur un marché européen qui est plutôt en déclin, ou en tout cas qui a bien du mal à retrouver en 2023 ou 2024 les niveaux qui étaient les siens en 18 ou 19, tout cela participe de surcapacités qui tirent les prix vers le bas et qui finalement conduisent à ces plans sociaux. Autant que les externalités environnementales qu'ont été soulignées, je dirais que ces stratégies de mise en concurrence des États pour attirer des investissements directs étrangers, qui sont assez systématiques en Europe depuis des années, conduisent quand même à une dénégation de la gestion, si vous voulez, de la question de l'adéquation des capacités à la demande, quelques années plus tard, on le voit en Allemagne même, des constructeurs comme Volkswagen qui disent, on a des usines surnuméraires, on a des emplois en trop, et il faut pas s'étonner si on se précipite à la première demande de Musk venue, pour construire une usine, qu'ensuite on soit en surcapacité.
Donc il y a cette grave question de la surcapacité qui est renouvelée d'ailleurs aujourd'hui, on va le voir dans un contexte où de fait la demande pour les véhicules Tesla s'effondre, et particulièrement en Europe. Ça dit, il y a un point intéressant qui vient d'être évoqué là, Marie Krpatal, je ne sais pas si vous avez des éléments sur ce point-là, mais ça intrigue tout de même. Est-ce que l'idée de se retrouver donc au cœur de l'Europe, en Allemagne, tout près de Berlin, c'est aussi une façon pour Tesla de faire partie de ce tissu industriel et donc de peser sur un certain nombre de décisions, mais pas que en termes de région, aussi en termes nationaux, et puis on pourrait se dire aussi vis-à-vis des réglementations européennes à Bruxelles. Est-ce que c'est une façon de modifier les normes, de faire quelque part du lobbying aussi, de s'imposer comme constructeur automobile européen et donc à ce titre de faire valoir ses intérêts au sein des institutions qui peuvent écouter ce genre de demandes?
Oui, alors je pense qu'effectivement, le fait d'être au centre de l'Europe, géographiquement, c'est quelque chose de très important. Après, on l'a vu, l'Union européenne, c'est quelque chose qu'il voit avec beaucoup de scepticisme. Il soutient d'ailleurs des partis qui sont eurosceptiques. On peut mentionner à cet égard l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, et notamment en amont des élections fédérales du 23 février dernier, puisqu'il a livré une plateforme à Alice Weidel, donc la chef de l'AFD, sur sa plateforme, son réseau social X, donc elle a pu étayer son programme sur X, ce qui lui donne aussi quelque part de la crédibilité et de la légitimité, y compris à l'international, alors que c'est un parti qui a tendance à être marginalisé, même si maintenant on a vu aussi dans les résultats que c'est maintenant le deuxième parti et que c'est un parti qui a obtenu 20% des voix. Donc effectivement, je pense qu'il mise sur un certain nombre de partis qui sont eurosceptiques pour essayer de détricoter un peu l'Union européenne et donc toute la machine réglementaire qu'il y a derrière ça. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le parti AfD est assez critique par rapport à Tesla. D'ailleurs, donc il y a tout ce projet d'extension de Grünheide, donc de la Gigafactory, au conseil municipal, les politiques de l'AfD ont plutôt voté contre cette extension et ils qualifient Musk de monsieur milliardaire qui s'impose au détriment des droits environnementaux, mais également du droit social. On peut peut-être aussi ajouter à ce stade-là que il y a beaucoup d'accidents de travail. Hein. Il y a beaucoup de personnes, d'employés dans la Gigafactory qui disent que les cadences sont importantes, que donc l'amplitude du travail est importante, que bon voilà, il y a de la douleur physique et donc elles ne se verraient pas poursuivre ces activités pour le reste de leur activité professionnelle. Et donc IG Metall, effectivement, le syndicat de la métallurgie, entre en confrontation avec le management de Tesla. Et quand il y a des arrêts maladie, eh bien, des gens sont envoyés de la part du management pour vérifier si ces personnes sont véritablement malades. Et donc, IG Metall dit que tout ceci est illégal. Le fait de ne pas payer de primes à ces personnes qui sont malades, c'est illégal. Et en plus, ça incite les gens à venir travailler quand ils sont malades et de contaminer leurs collègues. Donc, il y a en plus des inquiétudes écologiques aussi, des inquiétudes sur le plan social, effectivement.
Marie Pata, je me permets d'insister sur le rôle de l'AfD aussi dans l'élaboration de cette giga-usine Tesla. Et c'est vrai qu'il y a eu un retournement assez important, et pas uniquement concernant ce projet d'extension. En fait, dès le départ, l'élu local AfD, Cathy Muxel, à Grünheide, avait voté contre, hein, tout simplement, le projet en 2021. Depuis, vous l'avez dit, les liens entre l'AfD et Elon Musk se sont largement resserrés. Et depuis, Cathy Muxel tient un autre discours. Elle dit, finalement, ce n'est pas tant la faute d'Elon Musk auquel on ne peut pas reprocher d'avoir saisi une opportunité qui se trouvait là, on l'a dit, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est plutôt la faute du gouvernement d'avoir accepté qu'un site industriel s'implante partiellement sur des zones protégées. Donc, elle a remis la faute, on va dire, sur Olaf Scholz. Mais c'est intéressant tout de même ce lien entre l'AfD et l'industrie automobile. Cette distance, en première instance, mise avec Elon Musk et avec Tesla est quand même assez représentative. Initialement, l'AfD soutient plutôt les constructeurs thermiques traditionnels. Ça représente quand même une grosse bascule pour eux, non, ce soutien à Elon Musk.
Oui, tout à fait. Il y a un certain degré de climato-scepticisme aussi dans l'AfD. Et donc, le fait de vouloir soutenir l'industrie automobile allemande, qui évidemment est focalisée sur le véhicule thermique. Et donc, voilà, c'est 800 000 emplois directs. C'est évidemment tout un tissu industriel qui est lié à ça. Il n'y a pas seulement les emplois directs, mais aussi l'effet multiplicateur que ça a sur la chimie, le textile, sur les nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc c'est une industrie qui est très importante, qui est aussi le premier poste d'exportation de l'Allemagne. Donc évidemment, un parti comme l'AfD qui soutient l'Allemagne avant tout et qui souhaiterait sortir de l'Union européenne parce que l'Allemagne ne doit pas être l'argentier de l'Union européenne dans les dires de l'AfD, eh bien effectivement, c'est un peu un retournement de voir maintenant que, par opportunisme, ils soutiennent un acteur comme Elon Musk et donc l'entreprise de Tesla indirectement de ce fait-là. Oui.
Et donc, on l'a dit, les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux en termes de représentation du personnel et puis de gestion aussi de ces ressources humaines posent particulièrement problème. C'est plutôt l'argument environnemental qui était dans la bouche de l'AfD. Le projet d'usine n'était pas le problème en soi. Le problème, c'est qu'elle était installée au mauvais endroit, au cœur d'une zone de protection des eaux. Voilà ce qu'a déclaré Cathy Muxel. Il n'y a pas que les hommes et les femmes politiques qui se sont emparés de ce sujet. Les citoyens, la population a également été extrêmement mobilisée.
Nous voulons que le personnel politique local considère réellement le fait de ne pas étendre l'usine Tesla. Nous voulons que la zone de protection de l'eau soit préservée et que les ressources en eau soient garanties dans le Brandebourg.
Nous avons occupé cette forêt.
Nous avons occupé cette forêt car Tesla, qui produit des voitures électriques ici, dans la Gigafactory 4, veut aussi acheter et raser cette zone forestière. Nous avons occupé la forêt pour arrêter cela.
Nous nous rendons compte que la représentation communale a finalement tout approuvé sans réfléchir. Résultat, ils détruisent l'environnement et le climat.
Marie Krpata, on entendait là un ensemble de témoignages d'activistes, de militants, de porte-parole aussi, de mouvements citoyens, d'habitants de Grünheide. La question environnementale reste un aspect particulièrement problématique de ce dossier, notamment avec ce projet d'extension de l'usine Tesla à Grünheide. Il faut savoir aussi que c'est pas que l'usine, c'est tout on l'a dit, un ensemble d'autres industries qui ont témoigné de leur envie de s'installer là, notamment de transformation de lithium. Donc on voit un peu les impacts que ça peut avoir. Il y a aussi tout le changement en termes de logistique, la gare notamment de Grünheide qui a été modifiée pour permettre, on va dire, une logistique facilitée à Tesla. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu un certain nombre de référendums vis-à-vis desquels les citoyens se sont déclarés en vaste majorité à 65% contre les projets de développement du site. Des manifestations ont lieu. Il y a eu un certain nombre d'actes de sabotage aussi, dont les plus récents datent d'il y a à peine un mois, des incendies de sites notamment. Donc, une protestation quand même assez virulente, des campements qui ont été installés puis démantelés par la police allemande. Très concrètement, on comprend que les arguments économiques l'emportent sur les arguments environnementaux, Marie Krpata, et malgré le fait que Bernard Julien nous ait dit qu'on ait quand même du mal à écouler les stocks, il y a déjà un problème de surcapacité et que l'extension ne semble pas non plus la chose la plus rationnelle à faire.
Oui. Ah oui, il y a eu une consultation citoyenne avec deux tiers des citoyens qui ont voté contre l'extension, mais c'est pas contraignant. Et du coup, le conseil municipal a pris la décision d'étendre l'usine. Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, l'idée, c'est de créer une plateforme logistique, de créer une gare de fret aussi. Bon, après, les objectifs ont été revus à la baisse. Au lieu des 100 hectares, maintenant, c'est 50 hectares pour l'extension. Mais effectivement, on se pose la question des surcapacités. Donc, en fait, étendre, pourquoi faire? Parce que, donc, on a vu que de 2023 à 2024, il y a eu une baisse des ventes de Tesla à l'échelle mondiale de 1,1%. Et effectivement, Elon Musk a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait 14 000 postes supprimés et ne serait-ce que sur le terrain de Grünheide, 700 emplois et donc les emplois intérimaires qui ne seraient pas renouvelés. Et effectivement, il y a des surcapacités et ça suppose aussi des terrains d'entrepôt, ce qui revient également cher. Et donc, il y a un terrain d'entrepôt, c'est en fait un aéroport militaire à une heure de Grünheide, où sont entreposées un certain nombre de voitures. Mais encore une fois, ça revient à très cher. Donc, on se pose un peu la question de pourquoi cette extension.
Bernard Julien, vous souhaitiez réagir?
Oui, moi je suis assez frappé par les droits assez extraordinaires qu'a obtenu Tesla par rapport aux règles qui prévalent en Allemagne et en Europe. Hein. C'est vrai que il paraissait tellement important d'attirer Tesla puis de le choyer que l'Allemagne a été, semble-t-il, capable de s'asseoir sur un espèce de minimum syndical qui est le respect de la loi et des lois sociales. Hein. Par rapport à ce qu'est les formes de cogestion à l'allemande, Tesla semble dire que le temps de travail qui va s'appliquer chez eux n'a pas de raison de ressembler à ce qui est demandé ailleurs. IG Metall n'a pas le droit d'être dans les murs, mais doit mettre ses locaux en dehors, etc. Il y a quand même une espèce de dénégation de ce qui fait le cœur du modèle allemand dans le cadre de l'automobile, qui est quand même relativement frappante, hein. Et c'est vrai que aujourd'hui le fait que Tesla aille moins bien conduit à regarder le dossier à nouveau, hein, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'un petit peu curieux que de voir à quel point on est à même de jeter par-dessus bord tout ce qui semblait faire le consensus autour de l'automobile en Allemagne pour pouvoir, disons, succomber au charme qu'était celui de Tesla jusqu'à il y a peu. Hein. Donc c'est quand même assez étonnant hein, qu'on ait à ce point pu se laisser bercer par les chansons ou que Elon Musk avait entonné en Europe. Hein. Je trouve ça assez frappant. D'autant que, en dehors du fait qu'il y a quand même un problème environnemental construire des usines de batteries en Allemagne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologiquement défendable, dès lors que l'énergie allemande reste quand même extrêmement carbonée, ce qu'elle n'est pas ailleurs en Europe. Quoi. Donc il y a quand même ici quelque chose qui ne lasse pas de faire problème ou débat.
Et qui étonne effectivement, et il est vrai que le syndicat IG Metall doit louer une petite maison en bordure du site de Grünheide, alors même que, voilà, on l'a appris récemment, les salariés de l'usine Tesla à Grünheide ont recours à la protection juridique environ 21 fois plus souvent que la moyenne, ce qui en dit long aussi sur les conditions de travail. Et puis Bernard Julien, on en revient à cette question fondamentale, celle de pourquoi s'étendre, pourquoi mettre en péril à ce point un très grand nombre de normes environnementales, alors même qu'on est déjà en capacité, et alors même, et on en vient à un point beaucoup plus actuel de conjoncture actuelle, Bernard Julien, et alors même que les ventes de Tesla enregistrent des baisses records ces derniers temps, moins 75% en Espagne, moins 63% en France en janvier, et puis moins 76% en Allemagne au mois de février. À quoi sont dues ces baisses de ventes, Bernard Julien? Est-ce que c'est lié, et notamment en Allemagne, à tout ce qu'on vient de décrire, à la fois en termes de positionnement politique d'Elon Musk, mais aussi des dégâts sociaux et environnementaux que peut provoquer l'usine, ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental que ça ?
Alors effectivement, il y a une dimension conjoncturelle, il y a tout ce qui se passe depuis que Elon Musk a apporté son soutien à Donald Trump, et ça date en gros de la deuxième quinzaine de juillet, hein. Mais il faut bien souligner quand même que les baisses de vente des Tesla, des deux modèles Tesla, hein, la Model 3 comme la Model Y, mais surtout la Model Y qui était au cœur des ventes, datent d'avant, hein. Quand j'ai regardé les statistiques françaises par exemple, hein, il est très clair que on a en mai, juin, juillet, août de l'année 2024 une baisse assez nette, hein, avec d'ailleurs déjà en mars une baisse de 42% hein, des ventes de Tesla en France. Hein, tout ceci indique que il n'y a pas besoin des frasques de Musk, si je puis dire, pour expliquer le déclin des ventes. Hein, ça veut dire que plus fondamentalement, bah, il y a un marché de la voiture électrique qui devient beaucoup plus concurrentiel, qui se banalise, hein, dans lequel le pionnier perd un peu son avantage, parce que le modèle Y dont nous parlions tout à l'heure, il ressemble quand même d'assez près à ce qu'on va trouver dans la concurrence, hein, en particulier à ce qu'on va trouver chez Volkswagen, mais aussi éventuellement à ce que Peugeot va proposer avec 3008, etc. Alors ce sont effectivement des espèces de chars d'assaut d'automne avec des batteries énormes, hein, donc des véhicules qui sont pas forcément extrêmement écologiques, hein, mais qui ont la capacité de séduire, surtout quand on arrive à les positionner en prix plutôt à 35 ou 40 000 euros que à 45 ou 50. Hein. Donc comme tout le monde s'est mis à emprunter ces travées-là pour essayer d'approcher les consommateurs accessibles, eh bien Tesla, avec son modèle Y, n'a plus eu cette espèce d'avantage qu'ils avaient. Hein. Et puis Tesla n'a en magasin, n'a en catalogue, si je puis dire, que deux modèles, hein, là où chez Volkswagen, comme chez l'ensemble des constructeurs occidentaux ou européens, on va avoir une gamme plus large de véhicules électriques qui va permettre de s'approcher de clientèles un peu plus diversifiées, hein, hein, et par conséquent l'espèce de banalisation qui est en train de s'opérer dans le domaine du véhicule électrique, hein, et ce malgré la difficulté qu'il y a pu avoir à vendre des voitures en Allemagne en raison de la fin des primes à l'achat à partir du début de l'année 2024, tout ceci a déclenché une mévente relative des modèles de Tesla. Alors c'est ajouté à cela le fait que le fameux modèle Y, il devait être renouvelé, ou il est en train d'être renouvelé, et que ça a quand même plutôt tendance à freiner le dynamisme commercial, puisque les clients ont tendance à attendre que la nouvelle soit arrivée plutôt que d'acheter l'ancienne. Hein, et donc tout ceci génère, en dehors même du fait que Musk fasse des saluts nazis, une espèce de déclin du dynamisme commercial de Tesla. Et puis il faut ajouter qu'évidemment, Tesla a quand même une stratégie commerciale extrêmement particulière, puisqu'ils ont décidé qu'ils étaient suffisamment sexy, si je puis dire, pour ne pas avoir de vendeurs, pour ne pas avoir avoir de site de vente, pour ne pas avoir de showroom. Hein, et tout cela, bah, évidemment, ça marche assez bien. Quand on a l'avantage du pionnier, quand on est en train de s'adresser à ce que les gens de management appellent les early adopters, hein, mais quand on veut s'adresser à tout un chacun ou à Madame Michu, c'est un peu plus compliqué parce que bah là, il faut mieux être plus proche, il faut mieux avoir pour dire au client que l'on pourra non seulement lui vendre la voiture, mais aussi demain l'entretenir ou la prendre en charge si elle venait à défaillir. Hein, donc tout ça manque un petit peu, hein, et je pense que la massification du marché de l'électrique a été assez mal anticipé au fond par le management de Tesla. On l'avait vu en Chine déjà il y a 2 ou 3 ans, on le voit aujourd'hui en Europe, hein. Il y a par conséquent, en dehors même de ces hypothèques politiques que Musk a fait peser sur sa propre boutique, hein, il y a des raisons structurelles, ou en tout cas il y a une difficulté de l'entreprise à rentrer dans le rang, à accepter que l'automobile, bah, c'est une affaire compliqué, où il faut effectivement accepter de gagner relativement peu d'argent, hein, tout cela, eh bien, Musk semble le refuser, hein, comme s'il ne voulait pas manger de ce pain-là. Bah, il se trouve que c'est le seul pain qui est à manger sur les marchés automobiles, électriques ou pas, en Europe au moins.
Bernard Julien, on va voir effectivement pourquoi, et plus en détail aussi, pourquoi ce modèle Tesla est en train potentiellement de vaciller sur sa base. On a bien compris, le problème de la banalisation que vous avez identifié se pose particulièrement. Marie Krpata, tout de même, est-ce qu'on peut faire effectivement une nuance, ou en tout cas la part des choses, entre les notions de boycott aussi, qui ont été très importantes en Allemagne, avec une prise de conscience politique très forte, et effectivement quelque chose de plus structurel, et puis surtout une question qui découle directement de ces baisses de ventes, alors qu'elles soient soit très conjoncturelles, soit structurelles. Est-ce qu'on pourrait se dire, moins de ventes, c'est potentiellement moins de recettes fiscales aussi pour une commune comme Grünheide, qui jusque-là en bénéficiait. Est-ce qu'on pourrait se dire que le temps des regrets est arrivé, et est arrivé vite pour la commune?
Alors, effectivement, je pense qu'il y a des actes de vandalisme qui sont liés à la personnalité d'Elon Musk. Donc, avant, acheter une Tesla, c'était finalement accorder sa confiance à Elon Musk. C'était quelqu'un de visionnaire, de disruptif. Et donc, finalement, ça participait au passage vers le véhicule électrique. Et donc, il y avait la conscience écologique qui jouait. Maintenant, finalement, ça se retourne contre la marque de Tesla, cette proximité avec la personnalité d'Elon Musk.
Oui, je crois qu'il y a des voitures qui ont été incendiées dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 mars récemment. Donc
exactement, il y a des voitures qui sont incendiées, des bornes de recharge Tesla qui sont incendiées, il y a des autocollants qu'on met sur le capot de la voiture en disant j'ai acheté cette Tesla avant que Elon Musk ne perde la boule. Donc effectivement, on voit qu'il y a des propriétaires de Tesla qui maintenant vendent leur Tesla, qui mettent fin au contrat de leasing pour leur Tesla. Donc ça, c'est un peu l'aspect conjoncturel qui est lié au soutien de Elon Musk pour Alice Weidel et pour l'AFD, qui vraiment suscite d'énormes critiques. Et voilà, il y a eu des manifestations, hein, du fait de la montée de l'AFD. Donc évidemment, il y a un rejet par rapport à ça. Après, il y a évidemment ce qui vient d'être dit, donc le modèle de Tesla qui est remis en question. Je pense qu'il y a quand on regarde la Chine, par exemple, de 2023 à 2024, il y a une montée des ventes de 8,8%. Mais si on regarde depuis le début de l'année, c'est une franche dégringolade. De moins 11%. Vous avez BYD qui est très concurrentiel, qui a une part de marché sur le véhicule électrique de 37%, là où Tesla aussi entre 3 et 6%. Effectivement, aujourd'hui, on a sur le marché chinois, qui est un marché très important de l'automobile, puisque vous avez 53% des ventes de véhicules électriques qui sont sur le marché chinois, contre 30% de l'ensemble de la flotte. Donc, vous avez 130 marques qui sont en concurrence les unes contre les autres, et avec des cycles d'innovation qui sont très rapides, et effectivement qui mettent la pression aussi sur le prix, et là-dessus qui sont plus concurrentes que Tesla, plus compétitives que Tesla, à la fois en termes de qualité, mais aussi évidemment au niveau des prix. Et comme ça a été évoqué, le modèle Y, le modèle Y, qui est le dernier produit phare, finalement il remonte à 2020, donc ça semble assez passé. Dépassé pensée en tout cas.
Alors on va voir quelles vont être les conséquences aussi de ce statut de pionnier ou en tout cas de grand innovateur qu'avait jusqu'ici Elon Musk. Quelles vont être les conséquences de cet effacement aussi de statut de pionnier. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la gestion du site de l'usine de Giga Berlin, l'usine de production donc de Tesla dans les environs de Berlin, met en lumière une stratégie propre à Elon Musk importée en Europe, avec toutes les tensions que la confrontation des deux modèles implique, celui de Musk et le modèle européen, le tout dans un contexte plus général où c'est tout l'empire Tesla qui est aujourd'hui confronté à des difficultés majeures. Alors ce modèle Tesla est-il sur le point de basculer? On en parle juste après un hommage musical à Tesla, non pas le constructeur automobile, mais l'ingénieur Nikola Tesla, né en 1856 et mort en 1943 et qui de fait a donné son nom à la branche automobile de l'empire Musk. Tesla brought the X-ray photo to the world, brought the AC power to the world. Here is a mind that can see across space, here is a mind soaring free. Sound turns to light, and light turns to waves, and waves turn to all things perceived. Maybe that knowledge would drive one insane. How can that knowledge be tamed? Tesla ushered the radio wave into the world, ushered the neon light into the world. The Hotel New Yorker, he's dead on the floor, the body of Nikola lies with just his detection to the world, ushered remote control into the world, ushered the bladeless turbine into the world, ushered the neon light into the world. Tesla, un titre du groupe They Might Be Giants, sorti en 2013. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture et nous nous demandons si le modèle Tesla est bel et bien en train de connaître un tournant en nous concentrant sur la façon dont est gérée l'usine du constructeur américain implanté à Berlin et plus précisément à Grünheide, au cœur de l'Europe. Donc, Europe où nous avons dit que les ventes de véhicules Tesla sont en berne, reflétant des difficultés plus globales pour le groupe dont le cours de l'action a enregistré sa pire séance le 10 mars dernier.
Elon Musk est-il en train de perdre son éclat à Wall Street? Les actions de Tesla ont chuté de 40% par rapport à leur pic de clôture de mercredi. Elles ont désormais perdu plus d'un tiers de leur valeur depuis l'entrée en fonction de Donald Trump et depuis que Musk a accédé au pouvoir dans la nouvelle administration.
Il ne m'a jamais demandé de faveur. Il ne m'a pas demandé de faire ça. Je lui ai dit, tu sais Elon, je n'aime pas ce qu'il t'arrive. Et Tesla est une grande entreprise. Je n'aime pas ce qu'il se passe. Il s'agit de notre point de vue, de voitures américaines fabriquées aux États-Unis. Il emploie des milliers de personnes. Il ne m'a jamais rien demandé. Il a créé une entreprise formidable et il ne devrait pas être pénalisé parce que c'est un patriote. C'est un patriote incroyable et je ne sais même pas si c'est un républicain.
Voici la Tesla Gigafactory à Berlin, où Elon Musk construit des voitures Tesla pour le marché européen. Ce sont grâce à des usines comme celle-ci qu'il est devenu la personne la plus riche du monde. Aujourd'hui, il utilise cette richesse, des milliards de dollars amassés en vendant des Tesla, pour promouvoir les partis d'extrême droite européens. La démocratie européenne est menacée par l'homme le plus riche du monde. La richesse et le pouvoir d'Elon Musk reposent en grande partie sur la valeur de Tesla. En achetant une Tesla, vous soutenez un militant d'extrême droite.
Voilà le résumé de cette émission en un très court mash d'actualité et qui nous reprend un peu tous les éléments qu'on a évoqués jusqu'ici. Bernard Julien, on a énormément insisté sur le fait que l'action, le cours de l'action de Tesla avait dévissé de 43% en une journée le 10 mars. C'était sa pire séance depuis 2020. Et puis depuis décembre 2024, la capitalisation boursière de Tesla a été divisée par deux. Alors on l'a compris, ce qui vaut pour la baisse des ventes de véhicules vaut potentiellement aussi pour cette capitalisation boursière. Un mélange de défiance vis-à-vis de la stratégie beaucoup plus structurelle de Tesla. À cela, on peut ajouter effectivement une défiance beaucoup plus politique. Il y a quand même une question que je voulais vous poser, Bernard Julien. C'est que le ratio cours-bénéfice de Tesla est plus de 9 fois supérieur à la moyenne des 25 constructeurs automobiles les plus valorisés et 4 fois plus élevé que celui du constructeur automobile chinois BYD qu'on évoquait à l'instant et qui a dépassé pourtant Tesla l'année dernière en tant que premier vendeur mondial de véhicules électriques. Il y a là une forme de contradiction, Bernard Julien. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de bulle Tesla ?
Oui, je pense qu'il y a clairement une bulle Tesla. Hein, quand on regarde effectivement le nombre de voitures qui est vendu et la capitalisation et même les profits réalisés, le cours de Tesla se justifie difficilement, hein, bien sûr. Hein, donc il y a une bulle Tesla qui est en train de se dégonfler, il y a une redescente sur Terre de Tesla, il y a quand même une manière de ne plus se laisser convaincre par Elon Musk, qui est en train de résulter à la fois de l'évolution structurelle de l'entreprise et puis du fait que il a dévissé lui-même en dehors du cours de bourse, quoi. Hein. Donc tout ceci fait que il y a le cours qui baisse, hein, mais le cours reste, comme vous l'indiquez, hein, extrêmement élevé par rapport à ce que sont les fondamentaux de l'entreprise. Hein. Ça veut dire que les marchés financiers sont pas complètement rationnels et que pour l'instant il en a bénéficié. Alors il en a bénéficié surtout dans la phase où il avait besoin de lever des fonds parce qu'il gagnait pas d'argent et qu'il en perdait même pas mal. Donc ça lui a quand même permis, avec des subventions, mais avec ce coup de pouce des investisseurs, de tenir toutes ces années la vente de chaque voiture lui coûtait jusqu'à 10 ou 12 000 dollars. Et puis là, il y a eu une période un peu bénie, je dirais, entre 2020 et 2022-2023, où toutes les planètes s'étaient alignées. Et puis, depuis 2023, il y a cette espèce de banalisation du marché, de cette concurrence avivée, de cette nécessité aussi de descendre en gamme à laquelle il ne veut pas se conformer. Hein, et tout aussi fait que en Chine d'abord et en Europe ensuite, Tesla, commercialement, Tesla technologiquement, descend de son pied d'espace. Hein. Tout à l'heure, on évoquait le cas de BYD. BYD, effectivement, c'est le grand challenger de Tesla, mais Tesla est déjà largement dépassé. Et Tesla n'est pas dépassé seulement sur le terrain commercial, hein, puisque BYD vend 4 millions de voitures alors que Tesla n'en vend qu'un 1,8 million. Hein, donc les deux courbes se sont croisées dès 2021, au fond. Hein, Tesla est surtout dépassé parce que BYD a la technologie, BYD maîtrise ses batteries, BYD maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, alors que Tesla, comme les autres constructeurs, hein, achète sa technologie, achète ses batteries, et finalement n'a pas de compétences électrochimiques particulières. Hein. Donc la confiance que l'on pouvait faire à Tesla, parce qu'ils étaient pionniers, était largement associé au fait que ils avaient proposé le plus tôt des produits qui étaient très convaincants et qui, disons, ajoutaient à la dimension électrique une dimension très techno, très connectée, etc. De tout cela, hein, on est en train de revenir parce que, finalement, fondamentalement, et malgré les années passées à ne faire que de l'électrique, Tesla n'a pas creusé l'écart, je dirais, avec les constructeurs historiques. Hein. Aujourd'hui, la voiture électrique, ça va devenir, bien sûr, encore un peu une question technologique, mais aussi et surtout une question de production et une question commerciale. Sur ces deux volets-là, Tesla n'est pas prêt. Hein, et le fait que Tesla ait en quelque sorte jeté l'éponge sur le segment du dessous, hein, parce que quand je dis le segment du dessous, c'est le segment des modèles qu'on appelle chez nous les modèles du segment B, donc c'est en gros les modèles du type R5, du type ID2 chez Volkswagen, du type C3 chez Citroën, donc des voitures qui vont se vendre entre 20 et 30 000, à ce jeu-là, il ne veut pas s'adonner, si vous voulez, Elon Musk, hein, et du coup, le développement de l'électrique en Europe, hein, la massification du marché de l'électrique en Europe, comme ça a été le cas en Chine, se fera sans Tesla, et Tesla va se voir marginalisé parce que ben il reste un arc-bouté sur un modèle qui a vécu très bien dans la phase pionnière et qui peut difficilement se pérenniser dans la phase de développement de masse du véhicule électrique. C'est particulièrement vrai en Chine, ça l'est aussi désormais, et ça le sera de plus en plus en Europe, il me semble.
Marie Krpata, on a beaucoup dit les effets politiques, on va dire, notamment du boycott sur les ventes. On a fait la même analyse, on l'a reporté sur cette chute du cours de bourse de Tesla. Après, on pourrait aussi se dire qu'il y a un contexte plus général, que les sept magnifiques, comme on les appelle aux États-Unis, dont fait partie Tesla, tout ont chuté. Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, tout ont chuté. Est-ce qu'il y a une spécificité, effectivement, de Tesla? Est-ce que, de fait, à partir du moment où on a dit au cours de cette émission que depuis le modèle Y, pas grand-chose de nouveau n'avait été mis sur la table, si ce n'est peut-être le Cybertruck, mais un pick-up qui s'est vendu à bien moins d'exemplaires que prévu par Musk. Est-ce que, effectivement, c'est une forme de défiance vis-à-vis des capacités d'innovation de Tesla? Et si oui, est-ce que d'autres constructeurs automobiles ont, au-delà des réglementations, au-delà de l'appétence du marché, etc., ont cette capacité d'innovation qu'avait pu avoir à une époque Tesla?
Je pense que ce qu'on voit aussi en Europe, c'est de nouveaux acteurs, enfin des acteurs plutôt historiques, mais qui deviennent aussi plus compétitifs en matière de véhicules électriques. Donc on voit par exemple Volkswagen, BMW, mais aussi Volvo, qui sur le marché européen sont aussi très importants. Maintenant, effectivement, c'est aussi les constructeurs chinois, donc on en parlait tout à l'heure déjà, mais qui sont effectivement très innovants en la matière. Donc il y a BYD, il y a XPeng, il y a Li Auto, il y a NIO aussi, et donc il faut voir aussi toute la politique industrielle de la Chine derrière ça. Donc en fait, le fait qu'il y ait eu des subventions, des aides d'État, le fait qu'il y a une politique commerciale qui est évidemment aussi très cohérente avec le fait de mettre la main sur des minerais critiques et des terres rares dont on a besoin pour construire cette batterie qui fait 40% de la valeur du véhicule électrique, et aussi les incitations à l'achat. Donc quand en Chine, par exemple, vous achetez un véhicule électrique, c'est l'immatriculation est gratuite, alors que pour le véhicule thermique, vous payez une somme à 5 chiffres et vous avez aussi une exemption de la TVA quand vous achetez un véhicule électrique. Donc ça, c'est le marché chinois, le fait aussi de bénéficier, le Parti communiste chinois a donné l'occasion donc à des acteurs chinois de se développer, et ça a été aussi, je pense, l'établissement de la Gigafactory à Shanghai a été un coup de fouet à ce moment-là. Donc d'utiliser des économies d'échelle que permettait ce marché critique de la Chine comme tremplin pour une internationalisation. Donc ça, c'est pour le marché chinois. Puis on voit que sur le marché européen, il y a des acteurs européens aussi qui maintenant commencent à être plus compétitifs. Il y a les primes à l'achat pour les véhicules électriques qui ont été supprimées, on l'a évoqué tout à l'heure, avec un espèce d'effet d'attentisme aussi de la part des consommateurs. Et sur le marché américain, aussi de nouveaux modèles hybrides qui s'établissent, qui sont aussi moins onéreux en fait que le modèle
même
Tesla.
Même si Tesla a cherché à baisser ses prix depuis un certain nombre de mois maintenant. Il y a un dernier point que je voulais aborder absolument avec vous, Bernard Julien. Tesla a envoyé une lettre il y a quelques jours au bureau du représentant américain au commerce pour lui signifier ses craintes vis-à-vis des droits de douane brandis par Donald Trump. C'est aussi une menace pour les constructeurs automobiles européens, mais aussi pour Tesla.
Enfin, il est évident que Tesla, par exemple, propose son modèle 3 depuis la Chine, alors que son modèle Y est proposé depuis l'Europe, et que par conséquent, le fait que voit aujourd'hui l'économie se démondialiser et les barrières douanières ressurgir un peu partout, c'est pas très favorable au développement de la stratégie commerciale et industrielle de Tesla. C'est également vrai, bien sûr, pour les constructeurs allemands qui continuent d'exporter beaucoup depuis l'Allemagne vers et les États-Unis et la Chine, et par conséquent il y a là une ombre au tableau aussi. En même temps, la stratégie qui consistait à être l'acteur dominant partout dans le monde est le principal problème pour Tesla. Il n'y a pas tellement de raisons aujourd'hui de chercher à séduire Tesla pour les Chinois, c'est très clair, ils font plus rien pour que que Tesla se développe chez eux. Et je dirais que la logique serait que on se comporte un peu de la même manière en Europe, hein, puisque Tesla finalement n'apporte pas grand chose d'autre que la remise en cause du modèle social ou de nos réglementations écologiques en Europe. Hein. J'irais jusque là. Hein, il me semble que l'espèce de volonté forcenée d'attirer en Europe Tesla, mais aussi BYD, mais aussi MG ou d'autres, c'est aujourd'hui une stratégie qui me paraît pas forcément défendable, hein, dès lors que on a quand même des constructeurs qui sont à même de faire le job, qu'on ait besoin d'attirer des fabricants chinois de batteries, c'est évident, hein, qu'on ait besoin d'attirer des constructeurs automobiles en Europe, ça me paraît beaucoup moins défendable dans un contexte où Bernard on ne cesse de se plaindre des surcapacités.
Bernard Junior, excusez-moi de vous avoir interrompu, je rappelle que vous êtes à distance, il y a quand même un fait intéressant, c'est qu'un fonds Trust Securities a attribué seulement 9% de la valeur de Tesla aux ventes de voitures, 21% aux services de technologie autonome, 17% aux robotaxis et 34% aux robots. Est-ce qu'il faut croire que l'avenir de Tesla ne passera pas par l'automobile? Et vous avez 20 secondes pour me répondre.
C'est la fable qui veut nous raconter. Hein, moi, j'ai l'impression que cette idée des robotaxis, c'est surtout pour cacher la misère automobile dans laquelle il s'est précipité lui-même.
Et bien voilà, un cache-misère, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux, Marie Ekrpata et Bernard Julien, d'avoir participé à cette émission.